Chapitre 8e, pour les aveux. Il me fait le récit de ses tentatives, des moyens qu'il employa. Tout d'abord, dès que le comte, après l'accident d'automobile, fut transporté à l'hôpital de Saint-Germain, Martin Numa lui-même joua le rôle d'un infirmier et veilla au chevet du blessé. Il gardait cette espérance que dans son délire le comte laisserait échapper l'aveu précieux, son secret. Son espoir fut déçu. Le comte ne put prononcer que quelques paroles inintelligibles, bredouiller des mots insaisissables dans sa douleur, et ce que ses lèvres purent prononcer distinctement, ce fut seulement le nom d'Elvira. Vraiment, l'amour de cette femme tenait tout le cœur de ce malheureux. À Elvira devait aller sa suprême pensée. Elvira, Elvira. Ce mot revenait sur ses lèvres blêmes comme une prière, une mélopée douloureuse et poignante. Cependant, Martin Numa eut cette pensée quand ces heures tragiques où le comte se trouvait si près de la mort, l'âme prête à s'envoler, évoquait uniquement le nom de celle qui en était souveraine. Si le cœur qui allait cesser de battre rappelait le nom de celle pour qui il avait battu, Martin Numa pensa, dis-je, que si le comte ne mourrait pas, si la vie revenait peu à peu, avec la vie si précaire à présent, la raison disparue reviendrait. Ce ne serait plus alors uniquement l'instinct d'amour qui parlerait chez le blessé, mais le sentiment de la vie réelle. Le comte, comprenant la réalité des choses, reprenant en somme possession de soi-même, rattacherait au présent, après ces heures terribles, le passé brusquement changé. Il se souviendrait non pas seulement qu'il aimait, mais qu'il haïssait. Au nom d'Elvira, un autre nom se joindrait, et ses lèvres, qui priaient en parlant de cette femme, maudiraient en nommant son ennemi à lui. Et dans cette chambre d'hôpital, où il semblait devoir mourir, il reprendrait l'aveu commencé dans la tonnelle de Vilaine, aveu qui avait failli lui coûter la vie. Martin Numa, cependant, ne pouvait indéfiniment demeurer au chevet du blessé, dans l'hôpital de Saint-Germain. Mais il ne pouvait néanmoins laisser échapper l'heure, le moment, la minute, où le comte, poussé par le besoin de vengeance, par la haine, serait disposé enfin à faire sa terrible révélation. Donc, tandis que lui revenait à Paris, il postait dans la chambre du comte deux de ses hommes qui tour à tour devaient se trouver auprès du blessé. Ces deux hommes savaient l'italien. Naturellement, ces hommes, qui furent présentés comme des infirmiers, ne laissèrent pas deviner à l'entourage qu'ils connaissaient la langue italienne. Cela était, on le comprend, de toute nécessité. En effet, il fallait non seulement saisir les paroles du comte, mais celles de la belle Focamore. Elvira, cela se conçoit, ne pouvait être écartée du chevet du blessé. Et elle lui parlerait certainement en italien, ayant sans doute à lui faire entendre des choses qu'elle espérait ne pouvoir être comprises que de lui seul. Quelle admirable comédienne que cette Elvira Focamore! Je ne pouvais oublier les détails de ma première entrevue avec elle. C'est moi qui, suivant les indications de Martin Numa, était allé la prendre à son hôtel pour la conduire à Saint-Germain le jour de l'accident d'automobile. On n'a sans doute pas oublié la scène qu'elle me joua dans son salon, scène de désespoir tragique. La scène se renoubla quand je la fis entrer dans sa chambre où le comte di Villacerboli gisait sur son lit de douleur, qu'à ce moment nous pensions tous devoir être sous peu son lit de mort. Elvira entra, et à la vue du comte, enveloppée de bandelettes de pansement, eut un grand cri d'effroi. Elle se pencha en arrière, comme si la commotion trop forte la renversait sous sa douleur. Et je dus la recevoir dans mes bras, la retenir, pour ne pas la laisser tomber à terre. Puis, faisant un effort, dominant sa faiblesse, la Focamore s'écria d'une voix déchirante « Voilà ce qu'est devenu mon Anlio, si beau !» Alors elle se précipita sur le blessé et avec frénésie couvrit de baisers son visage qui semblait insensible. Elle lui dit des paroles tendres, lui répéta sur toutes les intonations passionnées des phrases d'amour, d'affection, lui renouvela ses serments de n'avoir vécu que pour lui, de ne pouvoir vivre sans lui, en lui jurant de le suivre au tombeau. Cependant, si Martin Numa et moi, si Prosper et l'agent infirmier nous étions au courant, en somme, de la vérité tragique que masquait cette comédie, il y eut une autre scène dont le sens précis, la raison exacte, nous échappa tout d'abord à nous-mêmes. Quand la belle Focamore fut annoncée qu'elle allait entrer dans la chambre de douleur du comte di Villacerboli, le chevalier Fontis, qui jusqu'ici était demeuré auprès de son ami, qui avait gardé dans sa main une des mains du blessé, le chevalier aussitôt, brusquement, s'écarta du lit et se disposa à s'éloigner. Il allait sortir de la chambre quand je parus avec la belle Focamore. Elvira lui ferma le passage. Le chevalier s'arrêta. Il recula, s'effaça et se tint dans un coin de la chambre. Or, avant d'avoir jeté les yeux sur le corps du blessé, ce fut sur le chevalier Fontis que le regard brillant de la belle Elvira se porta. Le chevalier s'inclina, saluant. Puis, quand la belle Focamore, reprenant son rôle d'amant éploré, s'élança vers le lit du blessé, le chevalier, voyant la porte dégagée, sortit vivement, me bousculant presque pour passer plus vite. Pourquoi cela? Pourquoi? C'était encore un problème qui se posait à l'esprit chercheur de Martin Numa. Or, comme lorsqu'un problème, quel qu'il soit, se posait à Martin Numa, mon ami cherchait à en connaître la solution. Il s'ingénia pour arriver à déchiffrer cette énigme nouvelle, qui, pour n'être en apparence que très peu importante, devait cependant avoir une certaine gravité. Donc, Martin Numa voulait que le chevalier Fontis et la belle Focamore vinssent à se rencontrer, à se trouver en face l'un de l'autre, de telle façon que la fuite serait impossible, qu'ils se verraient dans l'obligation absolue de se parler. Mais le chevalier, comme s'il eut connaissance du désir de Martin Numa, et surtout grand souci de n'y point donner satisfaction, s'arrangea depuis ce moment à ne jamais se trouver à l'hôpital, ou du moins dans la chambre du malade, quand la belle Focamore faisait son apparition. Le chevalier Fontis ne savait pas encore que quand Martin Numa avait dans son esprit décidé que quelque chose devait arriver, fatalement, ce qu'il désirait s'accomplissait. Pas plus que les autres, le chevalier Fontis ne devait échapper à cette règle. Bien qu'il y apportât la plus grande attention et que toutes ses mesures fussent prises pour que ce fait ne se produisît pas, il arriva, sans qu'il sût comment cela avait pu survenir, que la Focamore et lui se rencontrèrent. Cela dans la première semaine du séjour du comte à l'hôpital. Il se trouva dans une telle situation qu'il dut, comme le souhaitait l'astucieux Martin Numa, parler à la belle Focamore. Et l'entretien eut lieu devant l'un des agents infirmiers qui comprenait l'italien. À ce moment, le comte di Villacerboli était assoupi. Après une longue crise de souffrance, il venait de s'endormir. Le comte, par conséquent, ne pouvait rien voir, rien entendre de cette scène. L'infirmier, discrètement, vaquait aux soins de la chambre, sortait, revenait sans bruit pour disparaître presque aussitôt, sans que sa présence ou son absence pussent être une cause de trouble entre les deux personnages. D'ailleurs, la scène fut extrêmement courte. À la vue de la belle Focamore, le chevalier, surpris, fit un mouvement pour se retirer. Mais Elvira vint à lui tout droit. Audacieusement, après avoir vu que le comte dormait, elle dit à Fontis « Chevalier, je suis heureuse de pouvoir enfin vous parler. » Le chevalier s'inclina poliment mais froidement, sans répondre. La belle Focamore, en italien, encore reprit « Jusqu'ici, vous semblez, chaque fois que je viens auprès de mon Anlio, éviter de me voir, vous semblez me fuir. » Le chevalier, maintenant impassible, immobile, froid, écoutait la Focamore. Il la tenait sous son regard, mais ne disait rien, ne se donnait même pas la peine de formuler une défense, une excuse. « Vous me fuyez, » reprit la Focamore d'une voix douce, « vous me fuyez, vous me causez un grand chagrin, une peine très forte. Parce que je ne puis vous dire combien je vous suis reconnaissant de tout ce que vous avez fait pour mon Anlio. Mes lèvres ne trouvent pas le mot que voudrait mon cœur pour vous faire entendre ma pensée. » Peu à peu, tout en parlant, la belle Focamore s'était rapprochée du chevalier. Elle semblait l'envelopper de son regard, l'entourer de la caresse fascinante de ses yeux admirables. Mais le chevalier était insaisissable, et tout le charme, toute la séduction de cette femme, de la belle vampire, se brisait devant sa raideur, son immobilité, son mutisme. La Focamore fit encore un pas vers le chevalier. Sa robe, dans un mouvement, vint jusqu'à le frôler. Tout bas, comme suppliante, la belle Focamore dit au chevalier « Tu ne comprends donc pas combien je suis heureuse de te revoir. Tu ne vois rien, tu ne vois pas. » Fontis ne sourcilla pas. Il continua à regarder cette femme avec des yeux froids, implacables. La belle Focamore, lentement, étendit la main. Mais le chevalier s'écarta d'un pas et la main d'Elvira ne l'atteignit pas. « Ah ! » fit la Focamore, « tu ne changes pas. Tu es toujours si cruel, sans pitié. » Le chevalier répliqua d'une voix nette, sèche, coupante. « Madame, le comte de Villacerboli est mon ami, un ami que j'aime comme un frère. Vous n'avez nullement à me remercier aussi grandement, et votre bouche n'a pas à me faire entendre ce que pense votre cœur. J'ai fait ce que je devais faire, et je souhaite d'être toujours si heureux si mon cher Anlio courait un nouveau danger. Adieu, madame. » Et sans se retourner pour la saluer, il sortit de la chambre. La belle Elvira le regarda partir. Alors elle eut dans ses yeux un éclair de haine. L'agent infirmier l'entendait dire à voix basse, mais avec rage et crispant les poings. « Toi, Fontis, tu ne sais pas encore tout ce que peut donner le cœur d'Elvira dans l'amour et tu ne te doutes pas jusqu'où il peut aller dans la haine. » Et comme le comte faisait un mouvement qui la laissait veiller, elle vint au lit. Elle entoura le blessé de ses bras et, tout doucement, de sa voix éplorée, elle dit « Anlio, mon Anlio, tu es toute ma vie, tu es mon bonheur. » Me redisant cette scène que lui avait rapportée fidèlement son agent, Martin Numa me dit « Il y a entre le chevalier Fontis et la phoque Amoret un secret d'amour, un mystère de passion. » Et il ajouta « Cette femme est extrêmement dangereuse. Sa haine est implacable et elle veut une vengeance terrible. » Nous devions, plus tard, chez le chevalier Fontis, avoir dans une scène à peu près égale la confirmation de tout cela. Martin Numa, après un court moment, reprit « Laissons donc, mon cher Courville, le mystère qui existe entre le chevalier et la phoque Amoret, qui sera éclairé d'un coup quand bon semblera au chevalier, et renom à la phoque Amoret et au malheureux comte. » Alors vous vous étiez imaginé cela, que je n'avais rien tenté pour obtenir cet aveu définitif? Détrompez-vous, mon cher. Dès que le comte fut en état de parler, de pouvoir répondre aux questions que je voulais lui poser, je me suis rendu moi-même à Saint-Germain. Ce jour-là, mon cher Courville, j'étais un médecin venu en ami voir un des docteurs de l'hôpital à qui on montrait le comte comme un malade échappé miraculeusement à une mort effroyable. Martin Numa me fit alors le récit de la scène qui eut lieu dans la chambre du blessé. Très habilement, il arriva à se trouver seul pendant un assez long moment avec le comte. Durant cette entrevue, Prosper veillait à la porte et, avec l'aide de l'agent infirmier, empêchait qu'on ne le dérangeât. Martin Numa, quand le blessé réveillé put parler, se fit reconnaître par lui. Le comte eut comme un rayonnement de joie quand, sous ce pseudo-médecin, il reconnut le célèbre détective. « Vous, vous ? » fit-il, lui tenant les mains. « Vous ? Ah, je suis heureux de vous voir près de moi. Je ne pouvais manquer de venir. Sans doute, certainement. Ah, qu'il me tardait de vous revoir, de vous parler, de vous demander encore un service, un grand service. Je vous suis tout dévoué. Je le sais, merci, j'en ai la preuve. Je vous suis déjà bien grandement reconnaissant. Mais j'avais peur de ne pouvoir vous voir. Comment cela ? Qui m'aurait empêché de vous approcher ? Hélas, j'avais peur de mourir avant d'avoir pu vous parler. Mais vous êtes sauvé à présent. Il fallait me faire prévenir. Oui, mais la prudence me commandait de n'en rien faire. Ah, pourquoi ? Parce que même ici, même dans cette maison, je dois tout craindre de mes ennemis. Eh bien, fit Martin Numa, puisque vous pensez qu'autrefois je pouvais vous préserver de ce danger, je crois qu'aujourd'hui il me sera plus facile de vous protéger. Oui, fit le comte douloureusement. « Oui, il faut me protéger. Et il faut nous sauver. » Après un court moment de silence, Martin Numa, voyant que le comte ne se décidait pas à reprendre la parole, et désireux de pousser un peu plus vivement l'entretien, demanda. « Dans la tonnelle de l'auberge au bord de l'eau, vous aviez commencé à me faire une déclaration des plus importantes. « Ah, vraiment ? Je ne me souviens pas. Non, je ne sais plus. » « C'est possible, en effet. Oui, c'est cela. » « Vous comprenez ? Après cette secousse, ce coup, ces émotions, ma mémoire n'est plus fidèle. J'ai oublié. Je ne sais... Non, je ne sais plus ce que je vous disais. Je ne sais plus. » Fort heureusement, moi qui ai gardé présent à ma mémoire le plus petit incident de cette courte entrevue, qui me rappelle la moindre parole, je puis vous redire le commencement de votre aveu, si subitement interrompu. Et avant que le comte ait pu placer un mot, Martin Numa ajouta « Vous m'avez dit à ce moment, ce sont vos propres paroles, le marquis Primo di Carmine et Santucci est double. » Dans son lit, le blessé tressaillit. L'effroi se montra dans ses yeux. « Moi ? Moi ? Moi, je vous ai dit cela ? Oui, vous m'avez dit, le marquis Primo di Carmine Santucci est double.
Double ?
Double ? Qu'est-ce que cela signifie ? Le comte déclara.
Je ne comprends pas.
Je ne sais pas, je ne sais pas. La sueur imprégnait maintenant son visage et un tremblement s'était emparé de ses membres. Martin Dumas s'en aperçut. Nécessairement, il insista. « Que veut dire ce mot, double ?
Je l'ignore. »
Martin Dumas appuya. « Vous m'avez dit, le marquis Primo di Carmine Santucci est double.
Je vous demande, j'insiste, pour que vous me disiez ce que veut dire ce mot, double. »«
Pardonnez-moi, » fit le comte.
« Oh, monsieur, pardonnez-moi, mais je ne sais pas. »
« Vous m'avez cependant dit cela. »«
Je ne comprends pas, je ne sais pas. »
Des larmes coulaient de ses yeux. La fièvre commençait à s'emparer de lui.
« Oh, monsieur, » dit-il, « en ce moment je ne sais pas, mais, ayez pitié, ne me demandez plus rien, je ne sais pas. Voyez comme je suis faible, malade. Je ne suis plus moi-même. Je suis un être sans défense, sans moyen de lutte, un malade, un mourant. Mon cerveau, ma pensée sont comme mon corps, en état déplorable. Mais on va me sauver ici, on me guérira, n'est-ce pas ? Je redeviendrai fort. Alors quand la science m'aura remis en état de défendre ce qui m'est cher, mon souvenir reviendra. Mais à présent, pardonnez-moi, je ne le peux pas, je ne le peux pas. »
Martin Dumas comprit aussitôt que le comte avait dû recevoir ici, dans l'hôpital, malgré la surveillance dont il était l'objet, un avis de se taire, une menace, lui aussi. Un tace X. Il ne parlerait pas. Martin Dumas n'insista pas. C'eût été inutile. C'eût été causer à ce malheureux une grande souffrance de plus, sans aucun profit. Comme Martin Dumas allait se retirer, le comte lui prit la main.
« Ne m'en veuillez pas, ne me gardez pas rancune. Il n'y a pas de ma faute dans tout cela.
Vous pouvez compter sur mon dévouement, comme avant cette scène.
Bien.
Je sais que vous êtes un grand et noble cœur. Je puis vous demander encore un service, un important service. » Si je puis vous être utile, j'en serai très heureux. » Le comte, comme si, même dans cette chambre, il redoutait d'être entendu, attira à lui vers son lit Martin Dumas pour lui parler tout bas, à l'oreille, et lui dit
« Ce n'est plus moi qui cours un péril à présent. Ce n'est plus moi qui suis en danger. »«
Comment cela ? » fit Martin Dumas. « Qui donc peut être ainsi menacé ? » ?»«
Oh, ma vie n'est rien.
Mais les menaces s'adressent à présent à l'être qui est pour moi plus que ma vie, qui est mon seul bonheur, mon unique félicité, ma seule raison d'être en ce monde. » Martin Dumas avait déjà compris, mais il lui plaisait d'entendre le comte lui dire ce qu'il pressentait depuis le commencement de cette nouvelle révélation. Le comte, d'ailleurs, sans laisser poser la question, reprit « J'ai des ennemis, certes, et très forts. Or, comme ils ne peuvent pas m'atteindre, ils menacent à présent celle que j'aime, ma femme, ma chère Elvira. » Martin Dumas feignit l'étonnement, l'indignation.
« Comment ? On s'en prend à une femme ? À Madame Focamore ?
Oh, ils ont toutes les audaces, et sont capables de toutes les infamies. Maintenant, ce n'est plus au corps du comte di Bellacciaboli qu'il s'attaque, c'est à son âme. Ils trouvent que je ne souffre pas assez dans ce lit. Ils veulent que j'aie une plus grande douleur. Ils s'en prennent à mon amour, à cette douce et tendre femme, à cet ange.
Mais c'est odieux !
Affirma Martin Dumas, qui savait bien à quoi s'en tenir sur tout cela. Le blessé reprit.
« Voilà, mon cher ami, voilà ce qui à présent me torture,
me met au supplice, tandis que je suis ici par mes blessures, que je ne puis la défendre, ma chère Elvira, court un danger, et cette angoisse m'accable, me tue. »«
Quel danger ? » demanda Martin Dumas.
« Madame Focamore peut-elle courir ? » ?»«
On lui fait supporter la même haine qu'à moi. »
Alors suppliant, le comte dit à Martin Dumas,
« Je vous en prie,
faites-moi cette promesse de veiller sur Elvira. Vous êtes puissant, vous êtes habile. Si vous me dites que vous la garderez, je serai tranquille, et mon angoisse disparaîtra. Je pourrai guérir. Oh, promettez-moi de veiller sur Elvira. »
Martin Dumas répondit, « Je vous le promets, mais à une condition essentielle.
Parlez, j'y souscris.
C'est que vous ne direz jamais à Madame Focamore que vous m'avez chargé de veiller sur elle.
Pourquoi ?
Si elle sait cela, au contraire, elle sera plus tranquille. Non. Confiante en ma garde, croyant que j'ai tout pouvoir, elle commettra quelque imprudence et agira de telle sorte, oubliant ou méprisant tout danger, que je ne pourrai arriver à temps quand elle se trouvera en péril. Il faut garder ce secret pour sauvegarder Madame Focamore. Vous avez raison, je ne dirai rien. Parler, c'est paralyser mon action, c'est livrer Madame Focamore au pire danger. Oui, oui, je me tairai. Elle ne saura rien. Oh, merci, merci de vous consacrer à cette garde. Si vous saviez combien je suis heureux, c'est la vie que vous me rendez. Merci, merci. » Martha Numa alors vivement demanda « Mais pour que cette garde soit efficace, pour que je puisse protéger Madame Focamore contre vos ennemis, il faut que vous me précisiez quels sont vos ennemis. »« Mes ennemis ?» fit le comte avec difficulté, comme s'il éprouvait une grande peine à parler. « Ah, mes ennemis, mes ennemis. » « Oui, il faut que je sache. Dites-moi, sont-ils les amis du marquis Primo di Carmine Santucci ?»« Ah, le marquis, le marquis. » »« Oui, dites-moi, parlez, parlez. » Primo, que veut dire ce mot double? Primo, que signifie le marquis Primo di Carmine Santucci est double? Pourquoi double? Plus faiblement, plus difficilement, le comte répéta. Primo est double. Qu'est-ce que cela veut dire? Parlez, nous sommes seuls, vous n'avez rien à craindre. De votre aveu dépend peut-être le salut d'Elvira. Parlez. Primo, double, balbutia le comte. Puis il se tut. Martha Numa se pencha sur lui. Le comte venait de tomber en syncope. Martha Numa ne put qu'appeler à son chevet les gardes, l'infirmier, le médecin de service. La connaissance de ce secret singulier, qu'il tenait tant à connaître, lui échappait encore. Après m'avoir révélé cette scène dramatique, dont il ne m'avait jamais parlé, Martha Numa ajouta « Ce qui vient de se passer entre le comte et le chevalier » est pour ainsi dire le complément et la confirmation de cette scène entre le comte et moi. C'est exact. Le comte est décidé à avoir un entretien capital avec le roi des détectives. Il détient un secret de la plus haute importance. Et ce secret, en conclusion, il ne veut me le faire connaître que quand il sera certain que la belle Focamore ne pourra tomber sous les coups de ses ennemis. C'est certain. Ce malheureux est trop aveuglé par son amour pour voir, pour croire, même si vous le lui prouviez absolument, que cette belle Elvira qu'il veut sauver à tout prix est affiliée à la bande de ses ennemis. Non, il ne le croirait pas. Mais peut-être n'aurons-nous pas besoin de lui arracher le bandeau des yeux. Fatalement, dans le double jeu qu'elle tient, la belle Focamore commettra une faute. Qu'au besoin nous provoquerons, elle finira par se démasquer elle-même. Le comte éprouvera sans doute la plus grande douleur de sa vie, mais aussi se sentira pris par une rage folle d'avoir été ainsi trompé, alors il ne pensera plus qu'à se venger. Pourvu que ce ne soit pas trop tard. Pour le moment, il se sent revenir à la santé. Il est heureux. Il voit ses forces augmenter tous les jours. Il va rentrer chez lui, se croyant de taille maintenant à protéger la belle Focamore. Avec votre concours, toutefois. Oui, il sait qu'il peut compter sur mon appui. Il a confiance. Il est pleinement rassuré. Je gage que dès qu'il sera installé chez lui, il me fera venir avec le chevalier, son ami, son confident, et qu'il nous fera la révélation que j'attends avec tant d'impatience. Je le crois aussi. Ce n'est donc plus qu'une affaire de quelques jours. C'est pour cela que je reste encore ici. Je ne filerai en Sicile, prendre l'enfant de la Margellina, qu'après avoir eu cette entrevue avec le comte de Villa Cervoli. Jetant le bout de sa cigarette, brûlé jusqu'à lui griller les lèvres, il en alluma une nouvelle, et il conclut « Donc, mon bon Courville, un peu de patience encore, tout viendra à son heure, surtout quand cette heure est celle de la justice. »